Bonjour et bon dimanche matin. Nous sommes avec vous pour parler de la vaste et très moderne question de l'écrivain au temps de l'époque numérique, de l'écrivain dit augmenté. Avec nous ce matin, trois écrivains francophones, David Calvo, Yann Ayardal et Lionel Davoust. Donc café, thé et vodka. Aujourd'hui, l'écrivain solitaire qui attendait l'inspiration dans son donjon, hein, image romantique héritée du 19e siècle, est bel et bien explosé. Nous sommes à l'époque de l'écrivain qui travaille sur son ordinateur et qui, loin d'être retiré dans la solitude de son manoir, est connecté à quantité de réseaux sociaux et de communautés virtuelles. Donc, on va commencer par une question très basique, histoire de lancer un peu le propos, de vous demander en quoi l'informatique, l'outil informatique, a pu influencer ou jouer sur votre méthode de travail. Est-ce que vous êtes passé du papier à l'écran ? Est-ce que vous êtes toujours, est-ce que vous avez toujours travaillé sur l'écran, etc. Lionel.
Moi, je suis un geek de base. Donc, je pense pas que ça ait changé quoi que ce soit. J'ai toujours plus ou moins suivi les outils, toujours bossé à l'ordinateur parce que c'est drôlement pratique. Sur la question je reviens juste sur ce que tu disais au début sur la question de l'écrivain qui attend l'inspiration. Je sais pas si ça aura jamais été vrai. C'est effectivement l'image romantique du type avec une grande écharpe blanche qui va au bord d'une falaise battue par les flots et les vents et qui reçoit la foudre. Je crois pas que ça a jamais été vrai. La légende veut que Victor Hugo, au contraire, avait beaucoup de mal à écrire et qu'il s'enfermait nu dans son cabinet de travail. Son valet avait ordre de ne pas lui rendre ses vêtements pour qu'il aille boire un coup au troquet du coin tant qu'il n'avait pas rendu ses pages. Donc il y a une part d'art, mais il y a aussi une part d'artisan, je pense. L'intérêt de l'informatique et du net et du fait d'être connecté, ça fait gagner un temps fou parce que c'est très facile pour faire des recherches, mais sur des points de détail. Pas sur des grandes idées, parce que Internet fait des simplifications qu'on sait, mais sur des points de détail, c'est fabuleux. Google Street View est un merveilleux outil pour prendre l'atmosphère d'un lieu sans jamais y avoir mis les pieds. Et c'est super aussi pour garder le contact avec les lecteurs, pour créer des échanges et créer des débats. Et puis c'est un merveilleux moyen aussi de procrastiner aussi.
Pas mieux. Non, je vais rappeler une base. L'outil informatique, c'est déjà, avant toute chose pour un écrivain, un logiciel de traitement de texte. Et ça change tout. Quand on écrit à la plume, on essaye, on réfléchit chaque mot, parce que raturer, reprendre, noter en marge, etc., c'est extrêmement chiant, surtout quand à un moment donné ou un autre, on doit rendre un manuscrit final, que ça soit à la plume ou que ça soit avec une machine à écrire. Hein. Il y a vraiment des difficultés. Le logiciel de traitement de texte permet de travailler totalement dans le désordre, d'intervenir n'importe quand, n'importe comment dans un texte, de déplacer des pans entiers de texte pour les mettre à d'autres endroits, de changer en un seul clic le nom d'un personnage sur toutes ces occurrences. Il y a déjà quelque chose d'extraordinaire. Et en plus, maintenant, ces logiciels de traitement de texte sont accompagnés de logiciels d'orthographe, si j'ose dire, pardon, d'outils d'orthographe et d'outils de syntaxe qui, à défaut d'être exhaustifs, permettent déjà d'entrer, d'éliminer un certain nombre de bavures. On peut aussi créer pas mal de macros si on a envie de gagner du temps. Par exemple, tous les noms un peu longs, Alt, Ctrl, F5 et pouf, zou, ça passe. Voilà, c'est génial. C'est avant tout ça pour moi, l'outil informatique. Comme Lionel, je suis un geek. Je crois qu'en 1981, le ZX Sinclair était déjà chez moi. On a continué avec les Commodore, etc. Et depuis, toujours les ordinateurs étaient présents et toujours ces ordinateurs évoluaient et toujours j'écrivais. Et puis tout à coup, il s'est passé un truc. J'ai écrit mon premier roman. Vous n'allez pas le croire, je l'ai écrit en haut de ma tour d'ivoire avec une plume sur du papier. Parce que je voulais, je crois à ce moment-là, trouver ce contact on dit presque sensuel avec, avec l'encre et le papier. Et il s'est passé un truc terrible. Il a fallu après le saisir, le bouquin. C'était un tout petit ouvrage de 800 pages. Le temps que ça m'a pris de le saisir a fait qu'il est devenu pour moi interdit même de prendre des notes sur un morceau de papier. Allez, toi, Léonard.
Alors moi, c'était un CPC 6128 avec un traitement de texte. C'est vrai que c'est un truc, quand ça t'arrive dans ta vie, avec l'imprimante et tout, avec les papiers, avec les petits trous sur les côtés, c'était sympa. Et c'est vrai que c'est impressionnant. Enfin, je veux dire, moi, je suis pas non plus... moi, je suis un dessinateur à la base, donc c'est vrai que j'ai un rapport au papier et au crayon qui est naturel. Moi, j'aime bien me poser quelque part avec des oiseaux et des machins. Donc, moi, je suis romantique. Moi, j'ai toujours assumé d'être sans mes cheveux dans le ventre. J'en ai plus beaucoup, mais j'ai toujours considéré que c'était une activité, je sais pas, contextualisée, mettre en contexte. Voilà. C'est peut-être pour ça que j'aime bien être là avec quelque chose d'analogique dans les doigts. Et voilà. Donc. Mais après, je pense qu'on peut tout utiliser, en fait. Il n'y a pas de savoir si de l'ordinateur, le papier. Je pense que c'est un peu tout, en fonction de ce qu'on a envie. Moi, j'ai 12 cahiers. Je suis tout au contraire. Moi, je ne fais qu'écrire, en fait. Ou mettre des trucs. Donc, l'ordinateur... moi, j'ai écrit mon premier roman, effectivement, sur ordinateur. Avant, j'ai écrit des pauvres nouvelles pour les filles qui m'ont plaqué. Et... non, c'est vrai. Moi, j'ai écrit pour ça, à la base. Et quand j'ai écrit mon roman, c'est vrai que j'ai écrit, j'ai pas fait attention, quoi. J'ai écrit, je me suis dit, ah tiens, c'est cool, un truc de mon texte, puis j'ai écrit un roman. Et là, c'est vrai que j'aurais peut-être probablement pas pu le faire à la main, quoi.
Justement, quand on est dans la question des outils, vous parliez tous de traitement de texte. Et depuis quelque temps apparaissent de nouveaux logiciels qui ne sont plus des traitements de texte, qui sont l'hégémonique Word ou OpenOffice, mais qui sont vraiment des logiciels pensés comme étant des aides et des outils d'écriture.
Non. Ah non, non,
moi je pose les questions. Hein.
Moi, je crois que tu vas te faire tomber de ce bras.
Non, c'est ça. Mais c'est vrai que moi ça me terrifie. D'ailleurs, c'est pour ça que mes romans sont buggés jusqu'à la gorge, quoi. C'est que moi, je sais pas, j'aime pas du tout les correcteurs graphiques, j'aime pas du tout les trucs de mise en page, j'ai horreur de ça. Donc moi je travaille avec des logiciels qui... d'abord je travaille avec Simple Text, quoi. C'est-à-dire que j'ouvrais un bout de blanc et j'écrivais dans le blanc. Et puis après, je mettais en page plus tard. Et là, maintenant, il existe des petits logiciels qui sont absolument géniaux, qui excluent tout parasite de l'œil dans l'écran. D'ailleurs, qui vont virer les menus et qui vont faire une espèce de splash comme ça. C'est très très joli, c'est très doux. Et Freeman, on peut vraiment avoir une sensation d'écrire dans une page. C'est très agréable. Et c'est vrai que moi, comme je suis facilement... Moi, j'ai un problème d'attention, quoi. Donc, à partir du moment où il y a des icônes partout, il y a des sliders, il y a des trucs, il y a des renvois, je comprends plus rien à ce que j'écris, ça me plaît plus d'ailleurs. Les sauts de page, j'ai un énorme problème avec les sauts de page, quoi. C'est horrible de voir un saut de page à l'écran, ne serait-ce que les pointillés ou une page différente, j'y arrive pas. Je sais pas pourquoi, une espèce de continuité comme ça qui est inhérente aux médias, écrire sur un ordinateur. Donc, moi j'aime pas ça du tout, les trucs. Non, oula, quelle horreur.
Il y a deux types de. En gros, hein, sur les logiciels, entre guillemets, d'aide à l'écriture, il y a deux types. Il y a le type qui est véritablement pensé, qui est pensé à ce qui est, c'est pas universel, mais ce qui est fréquemment les besoins du média de l'écriture, c'est-à-dire qu'il pousse effectivement le commodité du traitement de texte plus loin. Par exemple, fréquemment, un bouquin, il y a des chapitres, donc pouvoir organiser les chapitres, éventuellement pouvoir organiser les scènes et pouvoir les retrouver facilement. Plus facilement que de se balader en slidant avec l'ascenseur pour se dire où est-ce que c'est de fichu scène. Un truc comme Scrivener, ouais, exactement. Scrivener ou Writing Outliner, etc. Donc ça, effectivement, c'est des choses qui peuvent être intéressantes, mais qui ne sont jamais que... Ou même OneNote, qui n'est pas un soft dédié à ça, mais qui est un sort de classeur virtuel. Donc on retrouve la possibilité de bouger une page d'un endroit à l'autre en ouvrant l'anneau du classeur, en le déplaçant. Donc ça, c'est jamais... que retrouver un peu la sensation de ce qu'on a déjà sur du papier qui est poussé un peu plus encore. Il y a une autre type de catégorie d'outils d'écriture et qui là, à mon avis, c'était en rapport à ça que je disais moi, c'est que c'est les trucs qui sont censés faire rentrer l'histoire dans une structure. Alors il y a forcément un personnage principal, il y a forcément un antagoniste, cet antagoniste il veut un truc, la scène va se dérouler dans tel endroit, la scène va être corsetée dans tel canevas, à un moment les personnages vont partir de la maison, ils vont aller, enfin, une espèce de tout un tas de présupposés narratifs qui sont hérités des modèles entre guillemets magiques, hérités d'Hollywood où il y a dans la recherche perpétuelle de la formule qui va marcher dans le scénario. Alors, les modèles narratifs, c'est intéressant parce que c'est vrai qu'on peut trouver un certain nombre de tropes communs, mais ça se met pas en boîte, ça. C'est-à-dire que fréquemment, une quête, effectivement, bah, une quête personnelle, il va y avoir un voyage qui peut être symbolique, interne, externe. On retrouve un peu des symboles comme ça, mais ça se met pas en boîte et ça se formalise pas. Et ces trucs-là, je trouve que, enfin, en ce qui me concerne, c'est juste de façon horrible de poser des questions à l'auteur, de lui poser les questions qu'il a surtout pas envie de se poser à cet instant-là. Et ça fait que des coquilles, pour moi, enfin, je trouve que ça fait des coquilles desséchées parce que ça tue le côté. C'est bien de cadrer un peu le processus de création de façon à ne pas partir dans tous les sens. Enfin, moi, je sais que j'ai besoin de ça, un peu de me poser des questions qui vont me faire avancer, poser des questions utiles à l'histoire. Maintenant, me poser les questions que j'ai pas envie de me poser là maintenant et dont je sais que le sens va émerger au fur et à mesure du développement de l'histoire, c'est juste atroce. Donc ça, mon avis, c'est des miroirs aux alouettes. Ça vous promet, vous allez écrire un script génial en utilisant notre modèle exclusif en 11 actes, parce qu'il y a des softs qui font ça, et c'est de là. C'est un miroir aux alouettes, pour dire ça poliment.
Oui, c'est. En fait, il découle des ateliers d'écriture à l'américaine. D'ateliers d'écriture qui ne sont pas donnés comme ici dans des bibliothèques, des médiathèques, mais qui sont donnés en fac. C'est plus des ateliers d'écriture, ce sont des cours d'écriture. On enseigne et on apprend donc à écrire avec, il y a des règles de base, donc il faut une description dans laquelle on joue avec l'œil de la caméra. Ensuite il faut un dialogue où il y a une certaine, enfin bref, voilà. Et tous ces logiciels découlent de ça et partent, sont fabriqués. Il y en a même quelques-uns qui proposent 50 modèles. C'est-à-dire, si tu as envie d'écrire comme Eric Emmanuel Schmitt, bah, t'écris comme Eric Emmanuel Schmitt. C'est-à-dire, tant que tu le fais pas, le logiciel te dit non, non, c'est pas comme ça. C'est sujet, verbe, complément, point. Et non pas sujet, complément, verbe. Voilà. Donc, c'est très rigolo. Je pense que c'est peut-être amusant pour quelqu'un qui a un sens analytique important et qui n'a encore jamais écrit. De s'essayer à ça et de voir là où il se sent le plus à l'aise, mais c'est hyper dangereux parce qu'on formate. Or, on a déjà des éditeurs qui ont envie de formater ce qu'on fait en fonction des succès qui ont été faits par d'autres auteurs, voire même par nous-mêmes. De temps en temps, un éditeur peut demander à son auteur, on va l'appeler Bernard W. par exemple, de réécrire exactement le même bouquin qu'il a écrit la dernière fois. Je ne me moque pas de Bernard, c'est un très grand ami, j'ai énormément de respect. Et si ce type est celui qui vend le plus en science-fiction, c'est parce que c'est celui qui a le plus de talent. Nah. C'est pas pour ça que j'aime ses livres. Et donc, oui, bah, Albin Michel, à chaque fois, dit à Bernard, bah, refais les fourmis, quoi. Et ben, si on nous colle en plus des outils informatiques qui vont avoir l'œil, qui vont être l'œil de quoi ? De Big Brother, de Sauron, encore pire. L'œil de Sauron sera derrière nous et en permanence va reprendre nos trucs parce que non, écoute, ton style, on sait bien qu'il plaît pas. La preuve, le dernier bouquin n'a pas marché. On n'en sort plus.
On est passé. Enfin, tu voulais ajouter quelque chose ? On est passé de l'époque du manuscrit à l'époque du tapuscrit. Donc le texte tapé tapé à la machine, sorti directement d'une imprimante. Se pose une double question. Toutes les deux portent le même nom, La Sauvegarde. Donc, est-ce que vous êtes paranoïaque par rapport justement à votre outil, La Sauvegarde informatique, ne pas perdre des fichiers, ne pas les corrompre ? Et aussi se pose la question de que deviendront les manuscrits ? On peut encore lire un manuscrit de Victor Hugo, nous parlions de lui, on a les manuscrits d'Arthur Rimbaud. Mais est-ce que dans 50 ans, on pourra encore lire un fichier écrit sous OpenOffice ?
Ben, sous OpenOffice, sous Word, sous n'importe quoi. Enfin, je sais pas, à tout hasard, vous aurez peut-être remarqué qu'on entre un peu dans l'ère du numérique en ce qui concerne le livre. Et ça fait très longtemps maintenant qu'on écrit sous fichier. Ces fichiers, on peut les transmettre à la Bibliothèque nationale. D'ailleurs, personnellement, je l'ai fait. Il y a quelqu'un qui m'a contacté à la BNF et qui m'a dit « ça t'intéresserait pas de m'envoyer tes différentes versions de trucs ?» J'ai dit « écoute, si ça t'amuse, on va faire le test sur un bouquin. » Et je l'ai fait. Je le ferai pas sur tous parce que c'est quand même un petit peu casse-couille. Il y a un outil que j'adore, c'est Eraser. Je sais pas si vous connaissez, c'est-à-dire il n'y a même plus une trace sur la piste zéro de ce que j'ai voulu effacer. Alors je préfère utiliser cet outil, c'est-à-dire l'effacement définitif, plutôt que d'être tenté en permanence de reprendre des bouts que j'ai mis à un endroit ou à un autre, ou de revenir sur finalement j'aurais pas dû effacer ça, etc. Mais donc on peut déjà numériquement présenter toutes les phases de notre travail, parce qu'en plus alors, on a des outils qui sont capables de garder je ne sais pas combien de versions de Je n'ai jamais été jusqu'au bout, je crois. Donc, ça se trouve, c'est infini. Hein ? Voilà. Et puis, est-ce que ça va être... Enfin, bon, ça va servir à qui, ça ? Éventuellement, à quelques universitaires qui, à un moment donné, vont faire une analyse, une étude, et qui vont en déduire ce qu'on pensait au moment où on écrivait. Aïe.
Ouais, non, je vais vous poser exactement la question que Yael. C'est, je me pose toujours un peu l'intérêt de ces trucs-là. Voir effectivement, quand notamment en cas en SF, quand un auteur crée tout un monde autour de son œuvre et pouvoir éventuellement aller voir un peu plus loin, ça peut s'appeler Silmarion par exemple. Ça peut être intéressant, mais je trouve que l'auteur, s'il a le livre à connu sa publication, il a été fourni au public d'une certaine manière. Pour moi, c'est ce produit-là qui est intéressant, et le reste de son processus de pensée et de construction, pour moi, relève davantage de l'intimité. J'aurais tendance à dire, avec tout le respect que je dois aux universitaires qui font étude de ces trucs-là, pour moi, je trouve qu'il y a un petit côté fétichiste de la chose qui, je trouve, n'est pas forcément intéressante. L'auteur, il a une intention, et l'auteur, il travaille sur son matériau jusqu'à ce que l'intention soit atteinte au mieux de ses capacités à cet instant. Voir avant, c'est un peu, je trouve, rentrer dans le boudoir de la comédienne avant qu'elle rentre en scène. On est là pour voir la comédienne, pas l'éloge.
Ok. Alors, ouais, le traumatisme de la perte de la sauvegarde, ouais, c'est terrible. Moi, je pense que je ne peux pas parler de ça, c'est tabou. Ça m'a fait... J'ai perdu tellement de trucs dans ma vie là-dessus que non. Enfin, c'est horrible. Voilà, mais après, on n'a pas le choix. Après, le manuscrit, je sais pas, si c'est Mervyn Peake qui fait des dessins dedans, pourquoi pas, quoi. Et si l'écriture, elle est, si on voit que le mec, enfin, je veux dire, ouais, le manuscrit de Kerouac, par exemple. Le mec, il a fait un truc de fou. C'est-à-dire qu'il est au-delà du manuscrit, il est pas simplement dans l'écriture et dans, regarde, j'ai fait un truc et trois ratures pour montrer. Non, il est vraiment dans utiliser le support comme matière elle-même. Et alors là, peut-être qu'effectivement, oui, c'est fascinant, quoi. Mais finalement, qu'est-ce qui remplace peut-être les manuscrits aujourd'hui ? C'est peut-être qu'ils remplacent les carnets, peut-être remplacent plus. Moi, je me souviens avoir vu des carnets de Norman McLaren il y a 20 ans, quand j'étais gamin, vraiment. Et ça m'avait impressionné, parce que finalement, si lui, son rendu, c'était sur pellicule, il avait quand même une trace de son travail... à la main, enfin pure, qui a été documentée aussi, donc je pense pas que le manuscrit va se perdre. Donc je crois qu'on est en... Il faut pas avoir peur que les choses se perdent ou pas. Il y a tout qui va être, quoi. Donc il y aura des manuscrits, il y aura encore des fous qui écriront ça à la main, il y aura encore des fous, probablement. Donc après, c'est une question de... Effectivement, je pense que la question de l'intimité, elle est très juste, quoi. C'est exactement ça, quoi. C'est est-ce qu'on a envie de voir ça, ou si on a envie de le voir, est-ce que c'est pas parce qu'il y a vraiment... Je me fous royalement de voir un manuscrit de Houellebecq, quoi. Enfin, je sais pas vous, mais... On s'en fout, quoi. Non ? Enfin, genre, voilà, je veux dire, qui aujourd'hui, quel auteur aujourd'hui, on se dirait, j'ai envie de voir, enfin, moi, je sais pas, quel auteur, Pynchon, ouais, ça devrait être fascinant de voir un manuscrit de Pynchon, quoi. Là, on se dit, ouais, ok, d'accord, on voit un manuscrit de Pynchon, après, on voit un manuscrit même de Paul Auster, on s'en fout, finalement, quoi. Tu vois, enfin, je veux dire, c'est ça, quoi, le truc, c'est, est-ce que c'est vraiment notre intérêt quand c'est Tolkien, quand c'est des manuscrits de Tolkien ? Je dis parle de ça parce que j'ai vu récemment à Londres, il y a une expo en fait à Londres sur toutes les grandes pièces de l'histoire anglaise qui restent, machin, et il y a le manuscrit de Tolkien, quoi, du Seigneur des Anneaux, non, du Hobbit, pardon, et qui est pas un bouquin que j'aime spécialement, quoi, mais c'est vrai que quand on voit le truc, on voit que c'est habité, on voit qu'il y a le monde existe plastiquement en fait sur le support lui-même, en fait, voilà, et ça, oui, d'accord, s'il y a ce front. Un manuscrit tout bête, si c'est effectivement pas pour documenter, pour des universitaires ou pour des gens qui écrivent des livres, ça n'a aucun intérêt, on s'en fout.
Je vais juste revenir sur un truc matin. Voilà. En fait, ce n'est pas de la paranoïa, la sauvegarde. C'est notre boulot et éventuellement, on essaye d'en vivre. Donc, il vaut mieux qu'on se protège et qu'on ne perde pas les trucs. Parce qu'on le sait, un disque dur qui lâche, ça arrive. Hein, Je veux dire, Serge Lehmann, par exemple, a été tellement traumatisé le jour où il a perdu, je ne sais pas si tu te rappelles, il y a des gens qui ne s'en rappellent pas, mais il a eu un Mac qui a lâché, des trucs qui arrivent, un Mac qui lâche. Mais sauf que les Mac addicts sont toujours persuadés que Mac c'est invincible, indestructible, etc. Donc ils ne faisaient pas de sauvegarde. Quand le Mac est mort et que le disque dur était cramé, il a perdu 200 jours de travail. Oui, du coup dépression, du coup etc. Et donc on sauvegarde notre travail, parfois sous plusieurs formats. Un coup dans le cloud, un coup sur le disque dur externe, parfois en se l'envoyant par email ou en l'envoyant à des copains. En plus, moi, je travaille assez régulièrement avec deux, trois amis qui me relisent pas tout à fait au fur et à mesure, mais presque. C'est-à-dire, quand j'ai un groupe de chapitres terminé, j'envoie et j'attends de prendre des baffes en retour. Mais donc, du coup, il reste des traces quelque part si jamais ma maison explosait, quoi.
Oui, je pense aussi derrière ta question, il y avait l'aspect technique des choses. C'est-à-dire, on parlait du CPC 6128, du ZX81, de l'Apple II. Il y a effectivement une question qui se pose aujourd'hui, c'est la conservation des médias relatives à ces machines-là. Comment récupérer les données qui sont sur ce truc-là? Comment accéder à même des programmes ou des choses qui font partie de l'archéologie informatique aujourd'hui? Bon, même si on est à 20 ans et à peine d'avant, bah, peut-être plus 30 maintenant, le temps passe. Comment sauvegarder ces trucs-là? Comment les refaire marcher? Comment avoir à nouveau accès à ces choses-là? Et on pourrait se poser la question, est-ce que c'est toujours un problème qui va se créer parce que dans 10 ans, les ordinateurs qu'on a aujourd'hui n'existeront plus? Le cloud va, pour moi, supprime ce problème-là parce que les données, tant qu'on n'a pas une guerre thermonucléaire globale qui rase tous les data centers d'Amazon, normalement, ça va plutôt rester. Donc, ce problème-là va, à mon avis, en plus disparaître parce que les fichiers seront toujours accessibles à travers à travers le net, à travers le cloud, qui ne pourra aller que se généraliser, sauf si on rase la planète d'abord. Et donc, on n'aura plus ce problème-là non plus de sauvegarde. Quelque part, ça va être, tant qu'on paye l'abonnement à Dropbox, ça sera ad lib dans le disponible.
Ouais, puis on peut imprimer aussi.
Oui. Oh, sérieux?
Moi, je coupe mon bois moi-même pour faire mon papier.
Non, bah, enfin, je veux dire, imprimer un texte. Après, voilà, tu l'as. Le texte, il est chez toi. Tu le mets chez toi. Moi, j'ai encore des trucs. Hein.
Non, puis là, on le change de support aussi. C'est vrai que entre Sarah et moi, en deux bureaux, il y a, je pense, 6 ordinateurs, 2 tablettes, etc. Et tous nos textes se baladent de l'un à l'autre parce qu'il y a une espèce de connexion réseau permanente. Voilà, donc le nombre de supports sur lesquels il y a le travail qu'on est en train de réaliser est hallucinant. Et ça paraît bizarre, mais un seul ordinateur, c'est vachement bien. Et puis on s'est aperçu que si on en a deux d'ouverts en même temps, on peut faire plein de trucs à la fois.
Pour quitter un petit peu la cuisine, on va aller dans le salon et voir votre visage public. Présence sur Twitter, sur Facebook, page perso en lioneldavous.com. Comment est-ce que se fait cette démarche justement de partir public?
Moi, la réponse que je donne souvent, c'est que c'est pour la même raison qu'on a envie d'ouvrir un bar, je pense. A priori, on n'ouvre pas un bar pour flatter son ego, on n'ouvre pas un bar dans l'espoir de faire fortune. Il y a beaucoup de gens qui vont sur Internet en se disant « Hey, j'ouvre une page Facebook et d'un seul coup, je vais vendre 200 000 exemplaires. » Non, sur Internet, nul ne vous entendra parler. À la base, j'ai eu des proches et des lecteurs qui m'ont dit « Mais pourquoi est-ce que tu n'ouvrirais ?» C'était il y a un moment maintenant, c'était l'éternité en termes d'Internet, ça devait être il y a 5 ans. Donc ils m'ont dit « Pourquoi tu fais pas un blog ?» Et moi, ma réponse, ça a été « Mais enfin, tout le monde s'en fout de ce que j'ai à raconter sur ma vie. Enfin, moi, j'avais un peu la vision du blog. Aujourd'hui, j'ai mangé une pomme et je suis à la plage, c'est super. J'ai surtout pas envie de raconter ça. J'ai surtout pas envie de raconter ma vie, d'ailleurs. Qu'est-ce que c'est la mienne et ça me regarde. Donc, mais au fur et à mesure, je me suis rendu compte qu'il pouvait y avoir... un blog, c'est ce qu'on en fait. Et moi, j'ai eu envie de créer un bar. Donc, une espèce d'endroit virtuel où on se retrouve sur certains sujets ou pas, d'ailleurs. Donc, on en discute. Des fois, on s'écharpe, c'est cool. Et le côté un peu communauté où on peut se retrouver entre deux bouquins, entre deux réalisations et parler des trucs entre gens de espérons-le bonne compagnie. Donc il y avait cette envie là et puis ça, dans un deuxième temps, je me suis rendu compte à la base, au début, j'étais sur MySpace, c'est dire comme ça remonte. Je me suis rendu compte effectivement qu'en dehors de ça, il y avait effectivement peut-être un intérêt pour aller un peu au-delà des bouquins sur l'univers, etc. Il y avait, donc ça pouvait éventuellement intéresser les gens, discuter un peu de ça aussi. Et troisième truc qui, moi, me tenait vraiment à cœur, c'est, on a un adage totalement intraduisible dans ces métiers-là, c'est « you can never pay back, you can only pay forward ». On ne peut jamais rembourser aux gens qui nous ont mis le pied à l'étrier, parce que quelque part, bah, ils sont plus vieux que vous, ils ont toujours plus d'expérience, ils avancent toujours plus que vous. Par contre, ce qu'on peut faire, comme on ne peut pas renvoyer l'ascenseur aux gens qui nous ont mis le pied à l'étrier, on peut peut-être le faire pour la génération suivante. Et moi, quand j'ai commencé à écrire, vouloir écrire sérieusement il y a une dizaine d'années, j'avais la sensation très forte que l'écriture, c'était un art, mais c'était aussi une technique, comme dans beaucoup d'arts. On peut difficilement être un bon pianiste si on n'a pas fait du piano, si on n'a pas un peu de travail les gammes. On peut difficilement être un bon dessinateur si on n'a pas fait un peu de perspective ou d'anatomie. Ça ne veut pas forcément dire que ça fait tout, mais que si je veux dessiner correctement un château qui va avoir de la gueule, c'est bien d'avoir les règles de la perspective, ne serait-ce que pour les enfreindre après. Et dans l'écriture, je cherchais ça et je l'ai trouvé beaucoup chez les Américains. Donc je m'efforce simplement sur le blog aussi, j'avais envie de pouvoir un peu communiquer à mon tour simplement le matériel que moi j'aurais voulu trouver quand j'ai commencé en termes de technique d'écriture, mais non pas au sens de formule magique comme on lisait tout à l'heure, mais juste au sens de voilà éventuellement quelques pistes de technique. Après vous en faites ce que vous voulez, si le but aussi c'est faut que ça rencontre ce que votre réflexion à ce moment là, si ça se passe c'est très bien. Mais à la base, c'est surtout une envie de créer un bar, donc un endroit sympa. Effectivement, de temps en temps, il faut que le patron dise le loyer de la boutique, c'est pas mal. Si vous voulez faire tourner la boutique, bah, c'est cool si vous voulez reprendre une petite prune, mais je vais pas vous forcer à. Donc voilà, c'était vraiment l'envie de créer un endroit un peu, l'envie de créer un endroit sympa, quoi, c'est tout.
On n'a pas eu la même discussion l'année dernière, mais sur l'autre salle.
Si, carrément.
Non, ce qui me semblait. Donc. Parce que je revois Lionel en train de dire ouais, moi j'ai ouvert un bar et tout. Dernière, ouais, moi j'ai ouvert un bar. Ok. Donc je vais essayer de ne pas répéter ce qu'on a dit, mais en même temps, si, parce que c'est la même chose, donc c'est rigolo. On a discuté la dernière, moi je fais le contraire en fait, moi je suis très égoïste. Moi c'est. J'en ai rien à foutre de qui vient. Je n'ai pas de stats sur mes sites, rien du tout, j'ai même pas de site. Enfin, c'est pas des sites que j'ai, c'est des listes. Et de choses et des dessins, c'est tout. Donc j'utilise le net moi vraiment uniquement pour me donner une discipline parce que tout le monde se fout vraiment de ce que je fais. Donc moi je peux m'y intéresser et comme moi je suis très mauvais patron, ben j'ai décidé de faire du net mon patron quoi. Donc des updates à faire sur mon site parce que je sais que si je prends le temps de dessiner mes trucs, d'ouvrir mes cahiers, de tout scanner, de tout mettre en ligne, d'organiser un minimum en ligne, ça organise ma pratique du dessin parce que je ne mets que du dessin en ligne. Mes bouquins, j'en ai absolument rien à faire. J'ai une liste de choses sur lesquelles je renvoie chez les sites d'éditeurs, c'est tout. Donc voilà, donc moi, je ne m'intéresse pas du tout au forum, je ne m'intéresse pas du tout aux gens. Absolument pas. Je trouve ça horrible, Internet, là-dessus. Quoi. Et je me suis fait la promesse il y a un mois de plus jamais lire de comments, plus que de commentaires, mais ever. Quoi. Mais c'est l'enfer, ces endroits. Moi, je ne supporte pas. Quoi. C'est un truc. J'ai envie de tuer tout le monde. Et déjà que je suis pas c'est ouf. Donc c'est génial le net et tout, mais pour moi c'est une forme d'expression en fait, donc j'utilise ce qui fait le canevas, ce que MacLeod appelait le canevas infini sur mon site. Alors c'est pas un site que j'ai un serveur et je mets en page, je mets une HTML bête quoi, et je mets mes tags et je balance ça, et c'est un canevas infini, c'est un manuscrit. C'est finalement un manuscrit virtuel voilà, sur lequel j'écris. Donc en fait, pour moi, je vois ça uniquement dans la pratique égoïste, individualiste. Voilà.
Oui. Moi, j'ai essayé de limiter tout ça, en fait. J'ai renoncé au site, j'ai renoncé au blog. Donc, pour quand même garder un petit contact avec le monde et suivre les gens que j'aime bien et que les gens qui m'aiment bien suivent un petit peu ce que je fais, j'ai que Facebook. C'est cool. Hein. Alors quand je dis que j'ai pas de blog, c'est pas tout à fait vrai. J'en ai 3-4.
Ça me rappelle une anecdote. Je peux juste te couper. Je peux raconter une anecdote l'année dernière qui était quand même géniale. Je sais pas si tu te souviens de ça. C'était qui en avait à côté là ? C'était Ian McDonald, c'est ça ?
Oui.
Le mec qui fait. Excuse-moi, ça va te faire rire. Le mec qui fait non mais Facebook c'est le mal et tout. C'est horrible. C'est quoi ces trucs ? Mais il faut arrêter les écrivains machin. Le mec il a quand même fini par faire sa pub sur Twitter. Au fait, ça c'est mon Twitter. Non mais sérieux, je vous jure. J'étais là. Arrêtez tout, quoi. Les gars, stop. Donc moi, c'est bien Facebook. Attends,
j'ai pas fini. C'est juste pour corriger le fait que j'ai dit que j'avais pas de blog. C'est pas vrai, j'en ai 3-4.
Voilà,
mais ils sont pas sous mon nom. C'est des trucs d'activisme, que ce soit politique ou que ce soit syndicaliste, etc. Et puis j'ai Facebook. Facebook dont je me sers pour dire ce que je ne dirais pas dans mes bouquins. Pour communiquer plus directement en une phrase très courte, en quelques images, en un relais sur des informations que je suis allé piquer lâchement, des fois sur les murs des copains, des fois dans des canards, des fois sur des blogs des copains aussi, ou pas des copains même. Il m'arrive même de voler des informations sur à des gens que je ne connais ni d'Ève ni d'Adam, mais j'aime bien ce qu'ils disent et j'ai envie que les autres le sachent. Donc, étant un hyper communicant par excellence, mais pas oralement, moi, c'est plutôt justement par le clavier. C'est un outil qui est parfait. En plus, je ne suis pas obligé d'y être tout le temps, dit-il, alors qu'un de ces deux ordinateurs est à peu près ouvert en permanence sur la page Facebook. Mais je fais attention de ne pas la regarder, je cache un œil comme ça. Non, mais ce qui me supprime une main pour le clavier, vous imaginez le... Enfin, c'est pas très pratique. Mais si j'avais un petit peu plus de temps, c'est-à-dire si j'avais un investissement un petit peu moins important dans le domaine, on va dire, du militantisme autour de nos situations d'auteurs, d'éditeurs, de psychopathes, psychopathes c'est nous tous, ça, bibliothécaires, libraires, etc., je crois que je ferais l'effort, enfin je ferais pas l'effort, j'utiliserais une partie de ce temps pour, comme Lionel, faire un blog et de temps en temps échanger, voire abruptement, sur des sujets un petit peu difficiles avec qui voudra bien en prendre plein la tronche quand c'est moi qui frappe, ou qui voudra bien me taper sur la tronche quand c'est moi qui dis une connerie.
Oui, là je vais faire attention à ce que je vais dire. Justement, avec l'outil informatique, il n'a jamais été aussi facile, et il devient de plus en plus facile, de mettre du texte à disposition. Il y a simplement 20 ans, quelqu'un qui voulait publier devait passer soit par le réseau du Fanzina, soit par la longue marche de trouver un éditeur. Maintenant, il suffit quasiment de créer son fichier, son point e-pub, et il est possible de le mettre en vente, de le mettre en disposition bénévolement. Et c'est toute une nouvelle discussion est en train de mettre en place.
Ouh là là, là.
Il va y avoir du sang.
Moi, je fais mon boulot. Hein.
Tiens, il est 11h, quoi. C'est doux.
Là, on reprend tous notre souffle.
T'as pris le micro, Dave, vas-y.
Vas-y, allez, merci les gars.
De rien.
Ok. Ouais. Non, vraiment, je sais pas. À la fois, je trouve ça magnifique que tout le monde puisse faire ce qu'il veut. Tout, c'est super. Enfin, je veux dire, on ne pourrait pas empêcher les gens de faire des choses. Quoi. C'est cool qu'ils les fassent. Je veux dire, qu'un mec se dise oh, j'ai écrit un bouquin de 500 pages sur machin. Ouais, c'est cool, les gens écrivent. Enfin, je veux dire, c'est quand même hyper important. On parle de société. Ils écrivent peut-être des trucs nuls, peut-être, mais ils écrivent quand même. Donc, c'est pour ça que pour moi, à partir du moment où on a une humanité qui perpétue l'écriture, c'est déjà bien. Voilà. Donc, plus les gens écrivent et plus ils se disent ah, j'ai jamais pu écrire parce que j'ai pas envie de coucher pour éditer ou parce que j'ai pas envie de ça, les mecs ils font un truc. Qu'on s'y intéresse ou pas, bah après c'est des questions de communication, de machin. Il n'y a rien de plus déprimant qu'un mec qui fait une super boutique de ses bouquins que personne ne lit avec le joli bouquin, le truc PayPal et tout. Personne ne paye parce que les gens voient pas. C'est hyper difficile, il faut pouvoir donner les fiches. Autant tu peux dire j'ai fait cette BD, je te montre un truc, autant un livre, il faut s'engager dedans. Quoi. Donc c'est pas, on distribue pas un livre comme on distribue une image. Quoi. Et ça c'est beaucoup plus tendu parce qu'il faut pouvoir faire la confiance aux écrivains pour acheter un truc de 500 pages à 7€ par exemple. Ça. Moi, il ne me viendrait pas à l'idée de vendre un truc sur internet textuel. À part peut-être à travers Angle Mort par exemple, ou parce qu'il y a une forme de gratuité, il y a une forme de contenu, de réalité éditoriale en fait, qui fait qu'il y a des gens derrière qui regardent des textes, qui ont envie de proposer certaines tonalités, on va dire. Donc ça, c'est super intéressant de faire partie de ces expériences-là. Après, tout seul, moi j'ai un texte de mon roman, j'essaie toujours de dealer plus ou moins, comme mes bouquins ne se vendent pas beaucoup finalement, et que mes éditeurs sont des petits éditeurs, j'ai la chance de pouvoir dealer des trucs en disant, bon bah, écoutez, voilà, finalement un PDF ou un machin, et puis je le mets aussi en ligne, et puis si ça intéresse les gens de regarder à quoi ça ressemble, je le donne, je ne vais pas le vendre, quoi. Parce qu'il y a le support derrière, et parce que pour moi les deux ont besoin d'exister en même temps, c'est tout. Donc... Ouais, je sais pas, je partageais presque que la communication, après c'est dur de communiquer, regardez, je fais une super couche, je fais un super bouquin, c'est puissant. Quoi. Donc, bon, je sais pas, vous en pensez quoi ?
Alors, derrière ta question, en fait, quelque part, ça pose la question de la libération de l'auto-édition aujourd'hui. Parce que finalement, le fond de la question, c'est ça. C'est avant, je voulais diffuser mon bouquin dans le vaste monde, il fallait que je sois pris par un éditeur et qu'il le prenne. Voilà. Aujourd'hui, je vais sur Amazon, j'ai fait mon bouquin, je le mets sur EPUB, pouf, c'est disponible. Il y a tout un tas, je vais donc essayer d'être calme et concis, il y a tout un tas de discours hyper fallacieux qui viennent se greffer là-dessus. Par exemple, le premier, c'est l'éditeur, c'est un espèce de gros méchant qui fait rien, qui n'a pas pouvoir publier mon génie. Non, ce n'est pas ça. Ça veut dire, ce présupposé dit par exemple que l'éditeur, c'est rien qu'un vendeur de livres. Non, c'est aussi un accoucheur de livres. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui va prendre le bouquin, qui va voir le diamant dans sa gangue et qui va dire, je vais essayer de bosser avec toi pour faire sortir le diamant et essayer de vraiment aller au fond de ce que tu as voulu faire, là où tu n'as pas osé, pas voulu. Donc, et ça, pour moi, c'est le rôle le plus important et le plus fondamental de l'éditeur. D'ailleurs, en anglais, il y a editor et publisher. C'est souvent deux départements différents et c'est deux métiers différents. Ce que Amazon et ce que toute l'auto-édition fait, ça fait juste le publishing. Mais ça pose aussi une autre question, un autre problème qui est un peu mon cheval de bataille avec le coup de jarnac qu'a fait Facebook récemment, ça vient de se poser encore plus, c'est il y a un espèce de présupposé qui là aussi pour moi est fallacieux, c'est à partir du moment où tout le monde peut publier son bouquin à pas cher sur Amazon, tout le monde va pouvoir se faire une place au soleil. Et cette espèce d'idée, il y a une espèce de miroir aux alouettes, et souvent, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, je vais avoir une page Facebook, ça va être génial, je vais avoir 15 millions de likes, et tout le monde va m'aduler. Non, c'est pas vrai non plus. Parce qu'à partir du moment où l'offre devient pléthorique, c'est déjà un truc qu'on a dans les rayons des librairies, il y a un problème de taille, de place sur l'étal du libraire, donc qui va faire la tête de gondole et qui va... Ça va être le succès qui va marcher, certes, parce que le bouquin est bon, etc., mais on se rend compte que quand même, globalement, c'est celui qui va avoir le plus gros budget de com. C'est celui qui va pouvoir se payer la tête de gondole, etc. Ça ne veut pas dire qu'il y a un lien à la qualité ni rien. Je veux simplement dire que dans un monde où on est absolument flodé, inondé de supports narratifs, de bouquins, de BD, de jeux vidéo, d'entertainment basé sur le fait de raconter des histoires, à un moment, il faut qu'il y ait un tri qui s'opère. Quand on a de la chance, c'est un tri qui s'opère sur la qualité. Malheureusement, fréquemment, c'est le tri qui va s'opérer sur la visibilité. Et à partir du moment où l'offre devient encore plus pléthorique, où la taille en rayonnage sur Amazon, par exemple, ne vaut quasiment plus rien, parce qu'Amazon peut stocker autant de bouquins qu'ils veulent, ça leur coûte pas grand-chose, le tri va s'opérer encore plus, pour moi, enfin, en tout cas, moi, c'est ma lecture, et surtout, c'est ma crainte, va s'opérer encore plus sur celui qui va avoir le plus les moyens de mettre de la com derrière. Et pour moi, et c'est le grand danger de ce truc-là, et à mon avis, c'est le grand miroir aux alouettes de certains nombres d'éditeurs purement électroniques, qui pour moi, pour certains, me donnent d'ailleurs l'impression de réinventer la roue. Il s'appelle propulseur numérique. Moi, pour moi, ça s'appelle un attaché de presse. Enfin, c'est un métier qui existe déjà, et depuis longtemps. Moi, le risque que je vois, c'est que à vouloir tenir cette espèce de discours de l'explosion du truc, on va ne faire que renforcer encore davantage le fait que celui sur lequel on va prendre des risques, donc celui sur lequel on va mettre du budget, donc celui sur lequel on va espérer qu'il va pouvoir percer, c'est celui sur lequel on va mettre le budget de com. Donc c'est le truc pas risqué, c'est le truc formaté, c'est le truc dont on se doute à un moment qu'il va marcher encore, parce que ça va être more of the same but different. Ça va être le truc sur lequel on va pas prendre de risques. Donc moi je crains que loin de favoriser, ça va favoriser la créativité. Moi je trouve très bien, Dave, ce que tu disais tout à l'heure, que c'est effectivement ces trucs-là existent. Moi je trouve ça très bien qu'il y a des tas de choses qui restent pas dans le tiroir de leur auteur et que ça puisse être diffusé. Par contre, il faut faire gaffe au discours qu'on tient. Est-ce que ça veut dire que, on revient à Andy Warhol, 50 Seconds of Fame, est-ce que ça veut dire que tout le monde va faire sa place au soleil? Non. Est-ce que ça va être même un progrès pour la littérature dans son ensemble? Moi, je crains plutôt qu'on voit un retranchement des éditeurs, donc des types qui prennent les risques financiers sur les grosses recettes qui marchent, parce que face à une explosion totale, au contraire, il y a une contraction sur les trucs qui sont sûrs, qui sont safe. Voilà.
Ah, mais je vais faire un couac là. D'abord, l'autopublication existe depuis très longtemps. Il représente à peu près 90% du marché des livres qui circulent sur le territoire français. Il y a la plupart des... On n'est pas au courant, on connaît que les gros salons, mais il y a des tout petits salons un peu partout en France. Et la plupart des auteurs qui sont présents sur ces salons sont des auteurs qui s'autopublient ou qui se publient à compte d'auteurs. Je ne vous expliquerai pas la différence, mais il y a une nuance quand même qui est assez importante. Et parce que ça ne coûte rien à l'organisation de faire venir des gens qui payent leur déplacement eux-mêmes, leur bouffe eux-mêmes, qui ont imprimé leurs bouquins eux-mêmes et qui vont en plus faire le marchand aux poissons eux-mêmes. Donc voilà, ça c'est génial. Donc ça, on en a assez peu conscience, parce qu'en général, ce n'est pas des salons qui ont lieu dans des grandes villes, ni sur des gros thèmes du style l'ASF, les utopiales, on va dire, par exemple, ce serait la science-fiction, ou les littératures de l'imaginaire, comme les imaginales, etc. Mais il y a une vague thématique où il y a un régionalisme. Et donc, je répète, l'autopublication, l'auto-édition, enfin, ou l'édition à compte d'auteur, existe depuis très longtemps, occupe la plus grosse part de marché. Et oui, ça, on n'en a pas conscience, mais c'est comme ça. Donc, après, sur le numérique, il se passe à peu près la même chose, tant mieux. Pourquoi pas ? De toute façon, le problème de visibilité, c'est-à-dire l'argent qu'on va mettre dans la promotion de son ouvrage, un éditeur comme Robert Laffont, par exemple, je prends un nom au hasard parce que il y a un éditeur de Robert Laffont ici, peut-être pas dans la salle, mais tant pis. Un éditeur comme Robert Laffont va pouvoir... communiquer sur les sites, sur les blogs, sur tout ce qui est porteur d'informations directement vers le lecteur qui sera concerné et atteindre le public. Un jeune auteur ou un auteur tout court qui essaye de le faire lui-même, bah, s'il n'est pas trop con, il va y arriver aussi. Pas aussi bien, parce qu'il ne pourra pas mettre le fric dedans. Il ne pourra pas s'arranger pour que son nom apparaisse en haut dans la page Google quand tu tapes science-fiction, etc. Ça, ok, il ne pourra pas payer. Mais s'il arrive, s'il a un ouvrage de qualité dans les mains à proposer aux autres, il arrivera à rentrer en relation avec les propulseurs, ce qu'on appelle les propulseurs, mais les propulseurs bénévoles, c'est-à-dire les blogueurs. Ben, il y a le prix des blogueurs qui a été remis ici, par exemple, voilà, qui vont permettre au livre d'exister, petit à petit, de toucher un public. Ce que je crains, le plus, c'est que les gens qui vont choisir de s'auto-publier sur le net, de façon numérique, soit comme c'était le cas en papier, un jour ou l'autre récupérés par les éditeurs. On l'a vu très récemment, les rares succès, parce qu'il y a eu très très peu de succès, hein, on fait beaucoup de bruit autour de 50 Merd of Grey. J'ai raté une partie du titre, mais en anglais, je suis nul. Bon, là, d'accord, on fait du bruit, c'est énorme, ouais, elle gagne des millions, et tous les éditeurs papier s'arrachent son truc. Attendez, mais ils n'ont pas honte ? Ben, je ne sais pas, non, ils n'ont pas honte, parce qu'ils sont là pour faire de l'argent. Donc, si un auteur qui s'autopublie, qui fait tout le travail en amont pour qu'on commence à le connaître, pour qu'on le voit, pour qu'il se diffuse, parce que la relation de bouche à oreille va beaucoup plus vite par Internet... Enfin, c'est plus vraiment de bouche à oreille, mais de clavier à écran, va beaucoup plus vite par Internet qu'elle va quand je dis à un copain « Putain, j'ai lu un bouquin d'un type que tu connais pas, que tu connaîtras jamais, etc. Et, » voilà. Et puis, quand le succès est là, les éditeurs disent « Ok, je prends. » Mais alors attention, là où il y a catastrophe, c'est qu'ils vont acheter un texte et ils vont se contenter du rôle de publisher. De nouveau, c'est-à-dire que aux États-Unis, il n'y a pas de problème, il y a une différence très nette entre publisher et éditeur, et ce ne sont jamais les mêmes personnes qui font le travail. C'est en général l'agent qui fait le boulot d'editing, et le publisher, il fait son boulot de marketing, de merchandisation, et de marketing éventuellement. Et ben, en France, alors qu'on était sur un système où les éditeurs faisaient les deux boulots, maintenant, on va voir disparaître petit à petit le boulot d'editing, dans la mesure où il existe encore, si je peux me permettre. On a quelques éditeurs, on a la chance tous les trois de travailler avec des gens qui nous font bosser, mais c'est pas le cas de tout le monde, en particulier dans les grosses machineries éditoriales. Les éditeurs ne sont plus que des gens à dire ou putain, t'as fait une photo d'orthographe page 23, et 9 fois sur 10 c'est lui qui se plante. Hein, j'ai dit du mal, il n'y a pas d'éditeur dans la salle, merde, pour dire le contraire. Ah, merci. J'en étais où ? À la page 23. Donc, à la page 23. Non, je crois que j'ai à peu près tout dit. Il va y avoir un problème de visibilité de toute façon dans le numérique parce que on va tous pouvoir s'auto-publier. Je l'ai fait, par exemple, avec Jean-Claude Duniac. Nous avons contacté Monsieur Amazon, et le grand méchant Amazon, et nous avons collé un, puis deux, puis trois, puis quatre, cinq bouquins sur Amazon. Puis après, on l'a fait un peu partout, et voilà. Et on a fait une première expérience qui consiste à ne pas communiquer sur le fait qu'on avait mis nos bouquins. Alors, je vous dire, c'est le pit total. Hein. On a quand même réussi, en quelques mois, à gagner 60 euros. C'est énorme. C'est-à-dire que, vu qu'on vendait les bouquins pas très cher, on a dû vendre 15 bouquins, quoi, en numérique. Sans com, ça marche pas. Après, on a essayé de communiquer un petit peu plus. Et là, en l'espace d'une semaine, on se vend 100, 150 titres, comme ça, enfin, là, ça part plus. Et puis, on a essayé, on s'est dit, allez, on va essayer de communiquer, on en remet une couche. Et là, on passe quasiment aux 20, 30 bouquins, toutes les demi-journées. Et puis, on s'est arrêté là parce qu'on veut pas mettre des ronds non plus pour... voilà. Pour aller. Mais c'est encore pas mirobolant. Mais tout simplement parce que le marché n'existe pas encore. En France, on a quand même énormément de tablettes, on a très peu de liseuses. Et les tablettes, apparemment, on s'en sert pour d'autres choses. On s'en sert pour jouer ou pour regarder des films, mais pas spécialement pour lire. Quand on sera des dizaines de milliers d'auteurs à faire ce type de travail, eh bien, les grands groupes, qu'ils soient d'édition ou de diffusion, ou de publication comme Amazon, comme Google, comme la Fnac, vont arrêter de prendre les jeunes auteurs qui ne sont pas connus. Vont demander à ce qu'il y ait quelqu'un qui fasse un travail d'editing en amont. Parce que leur intérêt sera toujours de vendre plus, et on sait bien que le succès entraînant le succès, ça c'est un truc marketing vieux comme le monde, il vaut mieux avoir une dizaine de Bernard Werber qu'un millier de Pierre Dupont. Et donc à un moment donné, on coupera net l'accès à Amazon aux auteurs qui n'auront pas réussi à avoir un label, un ticket qui sera mis. Et c'est d'ailleurs bien pour ça qu'on est quelques-uns à essayer de monter d'une coopérative d'édition numérique. C'est-à-dire que on a bien conscience, comme tu le disais, que s'il y a un métier important dans l'édition, c'est celui d'éditeur, c'est celui qui est capable de comprendre un auteur, de comprendre un texte, et de, en mélangeant les deux, d'en sortir le meilleur. Alors c'est vrai que quand on a 40 ans d'expérience dans l'écriture, il y a un peu moins besoin de travail. Quand on n'en a que 5, 10, il y a encore besoin de beaucoup de boulot. Putain, qu'est-ce que je suis bavard.
Bien. Est-ce que par hasard, il y aurait des questions dans le public? Vous voyez, nous avons de bons clients.
Merci. Alors déjà, je voudrais vous rassurer, il y a encore des apprentis éditeurs qui n'ont pas choisi ce boulot par hasard. Et ma question porte sur un peu les livres numériques. On peut faire des e-books enrichis, par exemple, avec au hasard de la vidéo, du son, etc. Et même, par exemple, des liens hypertextes pour envoyer, pour faire des liens entre textes, etc. Alors déjà, ma question, c'était, est-ce que ça vous intéresse? Et si oui, en quoi ça pourrait modifier votre façon d'écrire?
En fait, Yal me dit que j'ai joué avec ça. En fait, moi, c'est pas vrai. Envie de jouer? Oh, pas du tout. Non. Oh là là. Ah non. Non, peut-être mettre des dessins et des mots, voyez, ensemble. Non, les vidéos, tout ça, ça me... Je sais pas, j'ai quand même l'impression. Je peux pas m'empêcher de penser qu'il y a... Enfin, moi, je fais du jeu vidéo. Enfin, je fais du game designer, en fait. Donc, c'est vrai que ça m'intéresse de travailler plutôt là, ce qui fait la spécificité de ce que... ce qui est le fait d'écrire ou de créer sur ces supports-là, en fait. Je peux pas m'empêcher de penser que toute l'intertextualité, le multimédia, tout ça, moi, c'est des choses avec lesquelles j'ai jamais été très à l'aise, en fait. Je sais pas pourquoi. Peut-être que j'aime bien la pureté d'une pratique, peut-être. Donc peut-être qu'à partir du moment où on fait un roman, c'est un roman qu'on fait, c'est quelque chose de très spécifique, quoi. Un roman illustré, après, je sais même pas. Même le roman illustré, j'ai du mal. J'ai même moi du mal à réfléchir à ça correctement. Donc je sais pas. Il y a sûrement ça va sûrement exploser une autre forme de ça, mais c'est encore trop proche de la littérature pour moi, donc c'est pas assez le net. Et donc si c'est pas assez le net, ça peut pas être de la littérature. Enfin, c'est bizarre ce que je dis, mais j'ai l'impression que ça fait produire à portée. tu vois, une espèce de patchwork, comme si on avait, comme si on essayait de recréer un art total à l'intérieur du net, en fait, mais de manière complètement pas de l'intérieur, de l'extérieur. C'est-à-dire, c'est d'essayer de composer une réalité qui devrait sortir du média elle-même et qui devrait articuler quelque chose qui, pour moi, est le jeu vidéo, qui pour moi est le jeu, en fait, l'interactivité plutôt. Et que cette manière-là, c'est-à-dire de mettre une image, de mettre une vidéo, de mettre de l'intertexte, de mettre un machin, etc., c'est plus une manière de dire, bon ben voilà, j'ai tous ces faisceaux qui arrivent, qui sont canalisés dans un objet, mais l'objet, lui, n'est pas des faisceaux qui l'ont fait, en fait, c'est plutôt le contraire. Et moi, ça me gêne, ça, parce que ça veut dire pas utiliser le médium pour ce qu'il est, mais plutôt pour ce qu'on aimerait en faire à l'aune de ce qu'on connaît déjà. Voilà.
Moi, je vais troller un peu, mais avec un fond de sérieux quand même. Autour du numérique, il y a tout le côté, c'est la révolution numérique. Effectivement, ça bouscule beaucoup de choses, etc. Mais on a l'impression, surtout, c'est par rapport à vous, à ce que vous dites, c'est pour élargir le truc. Hein. Mais il y a un côté, il y a des poètes maintenant qui font des poèmes en 140 caractères sur Twitter. Il y a des mecs qui faisaient ça, c'est des japonais, ça s'appelle le haïku. Oui, il y a des propulseurs numériques. Oui, c'est des attachés de presse. Ah, mais comment, qu'est-ce qu'on va faire pour sortir sur le rayon d'Amazon? Oui, ça s'appelle la place en rayonnage. Le livre augmenté. Oui, il y avait des mecs qui prenaient un vieux bouquin qui s'appelait la Bible, ils écrivaient à la plume, ils faisaient des dessins dedans. Ça s'appelle le livre illustré. Il y a un côté, on cherche beaucoup à vouloir réinventer les trucs. On ne fait qu'une prolongation, pour moi, de choses qui on adapte effectivement les médias. Effectivement, maintenant, il n'y a plus des types qui font des dessins à la plume dans des abbayes. On peut mettre des vidéos YouTube et tout, mais ça reste au fond, ça reste c'est la continuation, l'évolution de choses qui sont qui existent déjà. Et pour donc répondre de façon plus sérieuse à votre question, est-ce que c'est intéressant? Pour moi, le livre augmenté, c'est du livre illustré et ça devient plus du roman à part entière. Sur la question de l'intertextualité, ensuite, je ne crois pas à la narration intertextuelle avec des liens hypertextes en dehors de ce que tu dis avec l'interactivité, où on est dans un autre genre de média et on n'est plus dans la littérature. On est dans autre chose, qui est une autre façon de raconter des histoires, de la même façon que le cinéma n'a pas la même grammaire que la littérature. L'esprit humain, à mon sens, en tout cas aujourd'hui, et depuis des milliers d'années, est quand même construit de façon linéaire. Il y a des causes et des conséquences. Il n'y a qu'à voir le fait qu'on a beaucoup de mal, en tout cas en Occident, à considérer qu'un phénomène puisse émerger de différentes causes en même temps. Dans la littérature et dans la façon de raconter une histoire, il y a quand même une idée de linéarité, d'une part, et même si plusieurs fils narratifs peuvent se passer en même temps, et il y a une idée de vision de l'auteur. Quand on fait de la littérature, ou alors à ce moment-là, on a un média où le joueur va mettre son propre histoire, on entre dans le bac à sable et on entre dans le jeu vidéo, et c'est plus la littérature. C'est pas moins, c'est pas plus, c'est autre chose. La littérature, pour moi, a une idée de fil et de trame narrative, d'une part, et de vision de l'auteur, et de linéarité. Il y a des bouquins avec du papier, mais c'était un truc narration hypertexte à la base, qui ont joué avec cette idée-là. Par exemple, Danilevski avec Les Maisons des Feuilles. C'est une expérience absolument phénoménale, et j'encourage tout le monde vivement à lire La Maison des Feuilles, parce que c'est vraiment un truc absolument phénoménal. Mais parce qu'il y a des tas de bouts, il y a des tas de fils narratifs qui se croisent, il y a plusieurs polices de caractères, on suit plusieurs histoires en même temps, enfin, c'est vraiment une expérience. Mais c'est une expérience. Est-ce que c'est appelé à être le gros de la littérature? Je ne sais pas, et personnellement, je doute fortement. Pour terminer là-dessus, s'il doit y avoir une évolution, le livre électronique se généralise, de grande façon, pour moi ça va être dans une approche de la littérature qui va pas du tout être le lien hypertexte, qui va pas du tout être l'illustration par de la vidéo et tout. Je trouve ça intéressant, hein. C'est pas pour dire que c'est pas intéressant, je suis très bavard mais j'arrive, mais c'est juste autre chose, c'est pas de la littérature, c'est le livre illustré, c'est un média différent. On va revenir quelque part à la différence entre le livre et le codex. Autrefois, les bouquins étaient écrits sur des grands rouleaux, et puis quand on a commencé à faire l'imprimerie, la littérature, je suis pas très, très fort sur le truc, mais ça a inventé le chapitrage, puisqu'on avait on avait des bouquins qu'on tournait, et donc il y avait des sections, alors que sur un rouleau, c'est quand même vachement plus compliqué. Et dans le livre électronique, dans la littérature fournie sous la forme électronique, on revient dans une idée de flux, puisqu'il n'y a plus de séparation physique des pages. Donc, si on doit voir, je suis totalement incapable d'imaginer ce que ça peut donner, mais s'il doit y avoir une influence du média sur l'évolution de la littérature, pour moi elle va être très subtil, et ça va être dans le fait de, à nouveau, se remettre à considérer un récit comme étant un flux que l'on déroule. L'analogie, c'est le codex avec le rouleau, et plus un truc dont on tourne les pages. Et il y a peut-être y avoir une évolution là-dessus, mais pour moi, elle va être subtile. Et si la littérature doit muter, ça va être sur cet aspect-là.
Je vais juste répondre aussi, parce qu'il y a quelque chose que je trouve d'assez fascinant, parce que c'est une question qui revient très souvent, le livre augmenté. Ça veut dire quoi, le livre augmenté ? Pour moi, ça veut dire on sort de la littérature. Si c'est plus de la littérature, on donne un autre nom. C'est grosso modo ce que tu viens de dire en raccourci. De la même façon que la photo et le cinéma, c'est pas pareil. Hein ? Ce sont deux choses complètement différentes. Et pourtant, ça part d'une même technique au départ. Quelque part, c'est de prendre l'image de quelque chose qu'on a en face. Ça a donné deux arts complètement différents, qui ont d'ailleurs chacun leur entrée dans le, je sais plus, c'est l'8e et le 9e, ou le 9e et le 10e, ou le 153e et le 154e. Je manque de culture numérique. Ah non, ça c'est raté. Donc, s'il y a un outil que je trouve intéressant pour la littérature, dans les liseuses et dans les tablettes, c'est l'outil qui permet, en tapant sur un mot, d'avoir par exemple la définition instantanément. Parce que on connaissait pas ce mot. Voilà, mais tout bêtement, il y a une entrée, claque, et on a accès au dictionnaire instantané. On peut même avoir accès peut-être à des cartes géographiques, si par exemple on dit c'est l'histoire se passe à Mogadiscio, putain Mogadiscio c'est où ? Pouf ! Hop ! Et ça c'est fait. Mais on reste de toute façon dans la littérature avec l'usage des encyclopédies et des dictionnaires qu'on utilise ou qu'on est censé utiliser quand on lit un bouquin et qu'on ne comprend pas quelque chose. Ça va être beaucoup plus facile à faire sur une liseuse que d'ouvrir un gros petit Robert ou l'encyclopédia universaliste pour aller trouver le machin, etc. Donc là, il y a un gros intérêt. Après, pour tout le reste, pour tout ce qui va donner naissance à un rapport entre l'écriture, et là je vois pas pourquoi l'écriture resterait d'ailleurs, si ce n'est d'un point de vue scénaristique, mais qui va utiliser à la fois les images, les sons, etc., on va entrer dans un autre domaine d'expression. On faudra inventer un mot, alors ce sera la choucroutiture ou la numéraquiture ou j'en sais rien, mais il faudra inventer un autre mot. Je vois un autre avantage énorme aux liseuses et aux tablettes et à la littérature numérique, c'est qu'on peut, pour des gens qui, par exemple, aiment mieux entendre les livres lus que de les lire eux-mêmes, ou parce que, par exemple, ils sont malvoyants, avoir accès au texte oral. Et ça, par rapport au texte anal, c'est très, 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 très différent.
Bien, c'est un magnifique coup de la fin. Donc, je vous souhaite ces considérations et une bonne dernière journée aux Utopiales.